Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Faut-il espérer un remaniement du gouvernement très fragilisé par la réforme des retraites? La première ministre Elisabeth Borne a invité les députés opposants à venir discuter. Mais cela s'annonce comme un flop puisque la plupart déclinent l'invitation. Normal pour le cheminot DGG Bruno Poncet qui souhaite un remaniement.
C'est fait comme elle a dit au syndicat. Vous venez, mais on parle pas de la retraite, on parle d'autre chose. Non, mais à un moment donné, c'est pas sérieux. Mais enfin, et en plus, tu vois, ils ont raison. Après, moi, je pense pas que Macron ça change les choses, mais à un moment donné, Madame Borne, c'est fini. On oublie. Au-delà de la réforme des retraites, t'avais quand même problème de pouvoir d'achat. Les déserts médicaux, c'en est un. T'as beaucoup de l'hôpital français souffre depuis des décennies. Ouais. Et là, il y a des choses à faire. Enfin, des sujets comme ça, si t'es même pas capable d'écouter les gens, c'est qu'à un moment donné, tu représentes personne. Eux, ils représentent plus qu'eux. Hein. Je pense que ça fait un bouton que tout le monde s'en est rendu compte. Hein.
Jérôme Lavrieux, vous qui êtes dans les petits papiers de la politique encore. Jérôme, remaniement ou pas remaniement?
Je prends pas de risque en disant qu'il finira par y avoir un remaniement.
Oui, bah ça vous demande ça.
Alors, remaniement, c'est différent de changement complet de gouvernement et de chef de gouvernement. Oui. Je pense qu'Elisabeth Borne va rester première ministre pendant encore un petit bout de temps.
Même un petit bout de temps, c'est en mois ou en année?
Bon, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire un peu plus.
D'accord.
Si vous la virez maintenant, c'est que vous dites que c'est elle la responsable de la situation sur la réforme des retraites. D'accord. Alors que, en fait, elle a appliqué ce qui était dans le programme du président de la République. Donc, ce serait fort de café de la rendre responsable du sujet. Après, un remaniement, oui, parce que il y a plus de 40 ministres, si ma mémoire est bonne.
43, je crois.
43. Je pense qu'autour de la table, on va en citer une dizaine, à peu près spontanément. Donc, ça veut dire que le reste, voilà, il va falloir faire un peu de turnover dans la boutique pour redynamiser un certain nombre de secteurs. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir comment ce gouvernement ou son successeur obtient une majorité texte par texte ou alors en global pour faire avancer les réformes dont notre pays a besoin. Parce que tous les sondages disent que le gouvernement n'est pas populaire, mais tous les sondages disent qu'en cas d'élection législative anticipée, on aurait la même morcellisation à l'Assemblée nationale. Oui, mais personne n'aurait de quoi fermer un gouvernement et d'être majoritaire. Il faudra bien que le pays soit dirigé.
On remanie ou on remanie pas Lumière Laprès?
Bah, pourquoi faire? En fait, je pense que c'est ce qu'on se disait la semaine dernière en parlant. Je crois que le désaveu, il est plutôt du président. Donc, il aura beau changer deux, trois têtes. Pour moi, ça changera rien au problème.
Eric Olegas, vous êtes d'accord avec ça?
C'est inévitable. Il va pas le faire parce qu'il est sous pression. Il a dit que c'était hors de question. Parce qu'il est
pas pour lui. Il avait dit qu'il était pas pour le 49-3.
Non, mais c'est une porte de sortie tellement, tellement intelligente qu'il aurait. Voilà, le projet est abouti, il est voté, on en fait ce qu'on veut. Il y a un nouveau gouvernement qui va le porter, qui va le traiter. Et c'est l'occasion, bien sûr, d'élargir la majorité. Si on peut, aux amis de Jérôme, les gens du LR qui sont encore utiles, hein, qui peuvent avoir une utilité. Et à ce moment-là, on trouve une majorité un peu plus stable. Peut-être
pas
absolue.
Pas de LR, hein, je te...
Oui, mais enfin, c'est quand même...
Pas tu plus en fais du partie. Modem ou d'autres choses.
Mais je sais bien, mon grand.
C'est moi
voilà,
pour
l'instant, tu es là. Donc, je pense que c'est une issue politique intelligente qui ferait du bien au pays. Ça peut nous permettre d'avoir un Premier ministre.
Nouvelle ère.
Ben, en plus, elle l'a contrarié, elle a dit qu'elle voulait plus de 49-3. Sous-entendu, on me l'a imposé, je voulais pas le faire. Il est absolument furieux à cause
de
ça.
Non, mais elle a dit plus de 49-3 hors texte budgétaire.
Oui, mais ce qui est normal.
Voilà. Elle en a pas utilisé donc, hors texte budgétaire. Donc
je dis que c'est une nécessité, que c'est une porte de sortie et que ça peut ouvrir des perspectives pour la cohésion du pays, pour une stabilité institutionnelle qui serait intéressante.
Mais tu penses que changer de Premier ministre et de 2-3 ministres, ça va donner envie aux gens de travailler 2 ans de plus? Parce que moi, je ne crois pas.
Tu as raison. Le remaniement, c'est on change quelques ministres avec le même gouvernement. Là, on change de gouvernement et on change d'orientation et on change de discours.
Avec un parti qui a fait 5% à la présidentielle, je ne sais pas si c'est ça le plus populaire, mais bon.
Une majorité. Attends, il y a une institution qui est l'Assemblée nationale. Tu composes ta majorité. Ça s'appelle un pacte de gouvernement.
Merci.
C'est tout ce qu'il y a de plus démocratique. C'est plus légal. Toutes les démocraties européennes qui, oui, tout se passe bien, parlent comme ça. Donc, j'invite avec Jérôme, le président de la République, à trouver un nouveau Premier ministre, et vous, Estelle, si vous joignez Lumière, prenez un nouvel élan, et ça sera la solution pour sortir de la crise dans laquelle, le merdier dans lequel on s'est mis, d'un bourbier.
Laissez-moi à côté de ça, merci. ce matin, sur RMC. Les vacances sont-elles désormais réservées aux riches? On vous en parlait hier, tiens, d'ailleurs, dans Estelle Midi. Les réservations sont en chute libre dans toute la France, jusqu'à 40% de baisse en un an dans certaines régions, en cause bien sûr l'inflation, mais également les pénuries d'essence qui limitent les déplacements. Et c'est un vrai problème pour le cheminot DGG Bruno Poncet.
Les vacances, c'est pas pour dire que c'est un truc de riche, mais à un moment donné, ça va le devenir. Parce que les gens qui essayent un peu de faire des pauses, bah ouais, à un moment donné, tu vas te dire quoi, tu veux pas reprendre en vacances. Donc, oui, tout augmente, bah, les gens, ils vont mettre l'argent dans ce qui est nécessaire et utile. Quand en tant que des gens, ils peuvent même plus acheter leurs produits d'hygiène et de beauté, c'est qu'à un moment donné, on arrive vraiment dans un gros problème.
Loumir, est-ce que les vacances sont désormais réservées aux riches? C'est trop cher les vacances?
Ben malheureusement oui, et surtout c'est pas un phénomène récent. Il y a déjà 2 Français sur 5 qui, avant les différentes crises qu'on a vécues, ne partaient jamais en vacances. Et je trouve que c'est vraiment très triste parce que pour le coup c'est quand même un acquis, un conquis social, cette capacité de prendre des vacances, de se reposer, de voir autre chose et de voir que des gens qui travaillent n'arrivent pas à partir en vacances. Moi ça me brise le cœur. Je me dis comment c'est possible dans la 6e puissance mondiale que des gens qui se lèvent tous les jours pour aller bosser n'arrivent même pas à prendre une semaine de vacances au camping. Enfin, on parle pas non plus de prendre un jet pour aller à New York, quoi. Là, on est dans une situation dramatique où tout ce qui est superflu, tout ce qui est du beau, du joli, de l'agréable, est sacrifié au profit du nécessaire parce que c'est tout ce que les gens peuvent faire.
Vous faites bon de la tête, Jérôme Lavrieux?
Non, parce qu'en fait, jamais 100% des Français n'ont pris des vacances.
Oui,
jamais.
Non, bah, oui.
Bah,
oui.
Mais enfin, 2 Français sur 5 avant la crise.
Jamais l'ensemble des Français n'ont pris de vacances, ne sont partis en vacances. Et je rappelle que la première destination de vacances des Français, c'est partir en France chez des amis ou de la famille. Ça n'est même pas d'aller dans un camping. Les campings, ça fait longtemps que tu n'as pas dû y aller. C'est pas forcément le truc le moins cher de la terre.
De
loin, sans faux. Même en tente. Parfois, il y a des gîtes qui sont moins chers que certains campings.
Est-ce que le tien en fait partie?
Non, bah oui, le mien est cher, mais j'ai pas augmenté mes prix par rapport à l'année dernière. Ceci étant, le principal obstacle au départ en vacances, pour l'instant, de la part de ceux qui avaient l'habitude d'aller en vacances, c'est l'incertitude. L'incertitude sur savoir est-ce qu'on aura un train, l'incertitude de savoir est-ce qu'on pourra faire le plein de sa voiture, l'incertitude de savoir est-ce qu'on aura un avion. Et pas forcément un problème uniquement budgétaire chez ceux qui avaient déjà l'habitude de partir en vacances.
C'est des grèves.
Moi, ça fait depuis très longtemps, ça fait 2 week-ends de suite où je n'ai pas eu de réservation chez moi. Parce que les gens ont l'incertitude de prendre un train.
Et mais toi, tu as une clientèle qui est un peu particulière quand même.
Ah, bah,
tout le monde a toujours des clientèles un peu particulières.
Ils peuvent pas rentrer.
Le camping que tu fréquentes, les gens, ils y vont pas par téléportation. Mmh. Ils y vont en prenant leur voiture, même si c'est un vieux diesel tout pourri qu'ils peuvent pas remplacer. Et le prix à la pompe, pour eux, il est le même.
Et
surtout, plus que le prix à la pompe, c'est de savoir est-ce que j'aurai de l'essence pour y aller. Est-ce que j'aurai de l'essence pour repartir? Parce que si je repars pas à temps, mon employeur, il va me dire, bah, t'es gentil, abandon de poste. Tu dégages. Et donc, c'est l'incertitude qui crée ça. C'est pas forcément la baisse du niveau de vie, parce qu'on peut s'adapter, partir un peu moins loin, un peu moins longtemps,
sauf quand on est sur
un peu moins cher, même si je rappelle que la première destination, c'est pas Saint-Tropez.
C'est la France.
C'est pas les Baléares. C'est pas autre chose.
C'est la Bretagne pour les vacances de Pâques.
En famille,
Bretagne,
à la campagne.
Bretagne et Normandie. Perico Légas, est-ce qu'il faut justement, notamment, je pensais aux grèves, hein, là, il y a une journée de mobilisation le 6 avril. Les vacances pour la zone A, c'est le 7. Est-ce qu'il faut. Là, juste faire une petite pause dans les grèves. En tout cas, de la SNCF, il y en a un petit peu moins dans les avions pour au moins permettre aux Français de partir en vacances. Je pense aussi au blocage des raffineries.
Les deux observations de Lumière et de Jérôme sont pertinentes.
Tout à fait.
Et moi, je vous sors dans la continuité de votre question un troisième élément. Je connais des gens qui, n'ayant pas pu partir en vacances à cause des grèves, ça a accumulé un budget qu'ils n'ont pas dépensé. Il me dit, grâce à ça, grâce à la CGT, on va pouvoir partir en vacances. Parce qu'ils n'ont pas dépensé l'argent du tout. Et voilà.
Merci Sophie.
Mais c'est vrai que pendant les vacances scolaires, là, on sort d'une période de trouble. Et voilà, le monde syndical serait avisé de laisser les Français.
J'ai pas l'impression que ça soit la tendance.
Oui, il y a une nouvelle présidente de la CGT, Sophie Binet, et ça m'étonnerait que la première mesure de la CGT soit de lever tous les piquets de grève.
Elle prendra ses responsabilités, mais là, le monde syndical a plutôt gagné de la confiance, de la considération de la part du monde des travailleurs. Et si on tombe dans les vieux clichés de confrontation, le rousseauisme, ils vont reculer. Ils étaient à 10%, 10-12. On va repartir en arrière. C'est dommage, ce suicide du syndicalisme français. Ces gens, c'est Harakiri. Voilà. Non, mais c'est un autre paramètre.
Se suicider, il faut être un peu plus
avant. Le droit aux vacances est un droit sacré, quand même.
Bon. Les GG, ce matin sur RMC. Les méga-bassines sont-elles vraiment un désastre écologique? Très décrié par les écologistes. Elles sont défendues par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui affirme que la création de ces réserves d'eau aura des conséquences positives, ce que partage bien entendu l'agriculteur des GG, Didier Giraud.
Fontas qui est à Sainte-Soline, il y a 15 ans de travail. Il y a 15 ans de travail de la police de l'eau, de syndicats d'aménagement, de gens qui ont besoin d'eau et qui étudient le territoire et l'hydrographie pour savoir comment et quand la prélever et comment et quand la rendre, quoi. À un moment donné, moi, c'est simple, hein, le truc, je vous le pose sur la table, amis consommateurs. Il y a deux solutions. Soit vous voulez continuer à bouffer et vous nous cassez les bonbons sur l'indépendance alimentaire et auquel cas vous nous donnez les moyens de vous donner à bouffer. Soit vous bouffez du poulet javelisé du Brésil et puis du soja qui vient d'Amérique du Sud ou de la forêt amazonienne, quoi.
Voilà, l'agriculteur des GG, Didier Giraud, très remonté contre les écologistes dont vous faites partie, Loumière Laprès. Juste, en quoi, pour vous, les méga-bassines, c'est un désastre? Quand on écoute Didier, on se dit, oui, c'est juste une réserve d'eau pour les agriculteurs avec, qui ont besoin d'eau, bien sûr, pour leur culture ou leur bétail. On ne voit pas forcément le souci.
Oui, oui. Et d'ailleurs, moi, au début, je me disais, pourquoi tout ce foin pour une bassine? C'est vrai que ça fait sens. On se dit, on va prendre de l'eau en excès en hiver. Quand il y en a, on va la stocker, puis on l'utilisera en été.
Ben oui.
Bon, alors, sauf que dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que on ne retient pas l'eau, on la pompe dans les nappes phréatiques. Donc, on la pompe en hiver au moment où la nappe phréatique est censée se remplir.
Et la pluie ne suffit pas.
La pluie ne suffit plus. Normalement, en hiver, il pleut, la nappe phréatique se remplit, et en été, quand il y a moins d'eau, on pompe dans la nappe phréatique et tout le monde peut se doucher, boire, etc. Et les agriculteurs, d'ailleurs, arrosaient leurs champs. Donc on s'est dit, ok, on va faire un grand trou, parce que c'est quand même ça, hein, et puis on va pomper tout le temps de l'eau dans la nappe phréatique qui, elle, du coup, ne va pas se remplir. Et ça vous a pas échappé qu'on a eu 23 jours sans pluie et qu'on est déjà dans 31 jours sans pluie et qu'on est déjà dans une situation de ce qu'on appelle le stress hydrique. Ensuite, dans ce grand trou, en fait, l'eau, elle n'est pas stockée, donc elle va s'évaporer. D'accord. Vous imaginez, c'est comme un grand terrain de foot où non, mais si, ça s'est avéré.
Là, on est sur de la
profondeur qui est bien moindre qu'un barrage. Voilà, donc en fait, l'eau va s'évaporer. Et surtout, et c'est ça qui est le plus important, ça pose la question de l'accès à l'eau. Qui a accès à l'eau? En réalité, et moi c'est vraiment quelque chose que je veux dire ici, on dit les agriculteurs. Ça n'est pas les agriculteurs qui vont avoir accès à ça. C'est ceux qui auront payé pour la construction de la bassine, et c'est environ entre 3 et 6% des agriculteurs. D'accord. Il y a de très nombreux agriculteurs qui sont contre les bassines. Il y avait d'ailleurs
Ce sera les plus gros agriculteurs
qui ont l'argent pour investir là-dedans. D'accord. Et qui arrosent beaucoup, c'est-à-dire les céréaliers. Et aujourd'hui, moi je suis bien placée, je viens d'une zone qui s'appelle la Plaine de l'Ain, où on ne fait pousser que du colza et du maïs, donc on est largement concernés. Aujourd'hui, ça sert à arroser des champs de maïs qui servent à nourrir des bêtes. D'accord. Donc en fait, ça ne permet pas de manger, ça n'est pas ça qui nous nourrit, pas du maraîchage, c'est pas des légumes.
Il peut nous arriver de manger les bêtes aussi.
Bien évidemment. Non mais je ne te dis pas le contraire, mais je te dis que parce qu'en fait, tout ce que ça fait, c'est repousser le problème à plus tard. C'est capter l'eau qui va exister pendant les quelques années où on va avoir assez d'eau pour la capter. D'accord. Et puis après, ça repousse le problème. On privatise l'eau au détriment de plein de gens.
Très rapide. Il y a des bassines formidables qui sont dans des endroits où elles sont très utiles et qui participent à une bonne agriculture. Il y a des bassines qui sont là juste pour enrichir des agriculteurs industriels. Alors, c'est pour faire du maïs pour nourrir les vaches. Mais est-ce qu'on peut juste remettre de la vache au pré?
Exactement.
Pas besoin de maïs.
Exactement.
Vous voyez ce que je veux dire? Il faut repenser là.
Clair.
Et il y a des bassines qu'il faut défendre, qui sont dans des endroits où il y a de l'eau phréatique, et puis il y en a d'autres qui sont des désastres écologiques.
Et je précise d'ailleurs que...
je ne peux pas la défendre, mais j'en défendrai d'autres, que tes campagnes iront quand même t'attaquer. C'est là où on pourrait être, tu vois ce que je veux dire?
Non mais elles sont illégales, hein. Je précise quand même que les cours de justice ont dit qu'elles étaient illégales.
Non,
et
non,
l'État...
pas celle de Sainte-Soline.
Une grande majorité.
On n'est pas là pour raconter des fake news, celle de Sainte-Soline. Elle a gagné toutes les procédures judiciaires qui ont été faites.
Une majorité... Oui, Sainte-Soline, oui. Une majorité des bassines...
On a détruit quelque chose qui est légal.
Mais on n'a pas détruit, il y avait un trou. Enfin, on ne va pas se relancer sur le débat.
On va pas revenir.
Juste quelques voitures qui ont brûlé, c'est pas...
Il y a eu des détériorations sur les canalisations.
Allez, je voudrais quand même...
Oui, c'est l'objectif.
Rapidement,
c'est
pour quand même qu'on écoute un dernier extrait. Quelle voiture faut-il posséder pour être sexy? Un site de rencontre britannique a découvert que les photos de profil d'hommes avec une voiture attiraient, mais c'est extraordinaire, particulièrement les femmes. Mais attention, pas n'importe quelle voiture et peut-être pas n'importe quelle femme, comme nous l'a expliqué ce matin Charles Magnin.
Avec cette étude britannique qui montre que les hommes propriétaires de voitures électriques sont jugés comme beaucoup plus sexy par les femmes sur les applications comme Tinder. Oui, je vois Nicolas qui hoche la tête.
Et là, Nicolas est très content parce que Nicolas a une voiture électrique.
Et oui, beau gosse. Sondage mené auprès de 2000 utilisatrices britanniques. Elles sont 36% à déclarer qu'elles auraient plus envie d'avoir un rendez-vous galant avec un homme qui conduit une électrique. Avec deux arguments, ça montre qu'il se préoccupe de la planète et qu'il a les moyens de s'acheter une voiture à un certain prix.
Tout ça.
Voilà, messieurs, si vous possédez une voiture électrique, vous aurez plus de chances d'être en couple que si vous possédez un vieux moteur diesel. Bah oui, c'est la. Eh oui, Perico.
Et un SUV, c'est encore pire alors.
Et alors, un SUV diesel, ça marche pas du tout. Mais un SUV électrique, pourquoi pas?
Allez, dans un instant, taisez-vous.
Vous dénigrez les femmes en disant ça. La femme est beaucoup plus noble que ça.